Chers frères et sœurs, je me demandais cette parole du Christ « Venez à moi, vous tous qui ployez sur le fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. » Je me demandais s'il était vraiment pour nous. Car chez nous, on ne connaît pas la guerre, comme en Ukraine, au Moyen-Orient ou en Afrique. On ne connaît pas la famine. On ne connaît pas les tremblements de terre comme le Venezuela, si terriblement éprouvé. Non, il n'y a rien de tout cela. Mais je me demandais, après la semaine que nous venons de passer, si finalement les lois funestes qui sont en passe de se voter à propos de la fin de vie n'étaient pas un vrai fardeau, une vraie souffrance. Finalement, c'est la disparition progressive de tout ce qui fait une société chrétienne, peut-être même humaine. Eh bien, cela nous affecte. Et pour le dire, on ne s'y reconnaît plus. Et puis, vous l'avez constaté, le plus grave, c'est ce dévoiement des mots. Les mots chrétiens sont utilisés pour désigner l'exact contraire de ce qu'il signifie. Et l'acte le plus éminent de la fraternité n'est plus de donner sa vie, mais de la supprimer. Sans parler, bien sûr, de la situation absolument dramatique des soignants qui veulent rester fidèles à leur conscience, mais même des congrégations religieuses qui s'occupent des personnes en fin de vie qui sont confrontées soit à la fermeture, soit à la perte de leur âme, probablement. Alors oui, on ne s'y retrouve plus, on ne s'y reconnaît plus, on n'est plus chez nous, et c'est cela notre fardeau, à mon sens en tout cas. Un père de l'Église disait, à propos du Christ, lorsqu'il naissait, lorsqu'il venait dans le monde, « Il est comme né à l'étranger ». Eh bien, c'est notre cas. Il semble que notre pays, comme chrétien, eh bien, nous soit désormais devenu étranger. Et ma vieille tante, que j'aime bien citer, disait, constatant cet effondrement, « On vit mal ». Ce pays, probablement déjà étranger, sera en passe de nous devenir hostile, ne nous cachons pas la face, que de quolibets contre la foi, dans l'hémicycle même, contre une prétendue réaction, cette ridiculisation systématique des positions adoptées par les hommes de conscience, les hommes de bien. Oui, on vit mal. Et la plaie, pour être cachée, n'en est pas moins vive. Et de grâce, chers frères et sœurs, qu'elle demeure vive. Cela atteste notre vitalité de chrétien. Nous devons continuer à souffrir de cet écartèlement entre le légitime et le légal. Ce qui est légitime n'est souvent plus légal, et ce qui est légal n'est souvent plus légitime. Alors, il y a cette espèce de décalage qui nous trouble profondément. Quel repos le Christ peut-il nous donner en tout cela? En y réfléchissant, je me disais finalement que comme chrétiens, nous avons beaucoup, beaucoup de chance. Car le Christ nous soulage dans un tel moment. Je crois que l'immense don qu'il nous fait pour nous soulager, eh bien, c'est justement son Église. Car l'Église, coûte que coûte, continue de faire briller la vérité, continue de nous éclairer, même si elle est contestée, même si elle est combattue. Car elle détient à l'intérieur une puissance qui ne vient pas d'elle. Elle recèle une parole dont elle est simplement le porte-voix. Cette puissance, cette parole qui viennent de Dieu. Et ce don est inadmissible. Voilà pourquoi elle continue à proclamer la vérité, à affirmer sereinement des vérités que nous-mêmes, moi-même, j'ai parfois bien du mal ou scrupule à énoncer pour ne pas choquer dans un monde qui pense différemment. Oui, un enfant est respectable dès sa conception. Oui, le mariage est fait pour l'homme et la femme exclusivement. Oui, la vie finissante doit être accompagnée avec infiniment de compassion pour soulager au maximum la souffrance, mais en s'interdisant absolument de donner la mort. Oui, la vie d'un migrant vaut la vie d'un nanti, comme l'a rappelé le pape hier à Lampedusa. Eh bien, l'Église, c'est aujourd'hui peut-être l'unique refuge où ces vérités peuvent être proclamées avec sérénité, haut et fort, avec autorité. L'Église, elle est comme Jean-Baptiste, cette voix qui ne se taira pas. L'Église est faite de bien des pécheurs. Elle a causé et traversé bien des scandales, oui, mais elle est habitée. Elle l'a été et elle sera habitée par infiniment plus grand qu'elle, le Seigneur qui est la vérité même. Voilà le don qui nous est fait. Et cette vérité, elle nous sauve, elle nous protège, elle nous rend libres. Nous ne nous imaginons peut-être pas bien le privilège que cela présente, mais voyons un peu autour de nous. Bien des fidèles d'autres confessions chrétiennes reviennent vers l'Église catholique, où ils viennent, parce qu'ils devinent en elle cette parole, cette vérité demeurée inviolée, cette vérité qui fait vivre. J'entendais le témoignage de ces religieuses anglicanes revenues à l'Église il y a quelque temps. Je prenais connaissance aussi de ce rapport publié ces mois derniers, évoquant le passage de près d'un millier de clercs de l'Église anglicane vers l'Église catholique. Ils ont senti que là, il y avait un refuge, il y avait un trésor que seule peut-être l'Église pouvait garder. Alors voilà, d'autres églises peut-être ont pris des décisions, des églises non unies à Rome, des décisions qui troublaient profondément les hommes et femmes de droit de conscience. Ils se tournent alors vers la chair de Pierre. Saint Pierre, dont la foi ne défaillira pas. Pourquoi ? Parce que le Christ a prié. J'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Et la prière du Christ est infaillible. J'aimerais évoquer une autre façon dont le Christ peut-être nous soulage en ces temps si troublés. Plusieurs le disent, viendra peut-être, est en train de venir, sans doute un temps de résistance. On ne manie pas ce mot à la légère. Mais comme en temps de persécution, il faudra aussi subir, souffrir, souffrir. Ce qui, sous couvert de libéralisme, devient de plus en plus illibéral, de plus en plus dictatorial. Mais n'oublions pas une chose. Le Christ est au milieu de nous. Il est avec nous. Et il est bon de porter les yeux sur lui. Car le Christ s'est enfoncé dans la passion. Et entrer dans la passion, qu'est-ce que cela signifie pour lui ? Après cette vie de prédication, comment le Christ nous a-t-il sauvés alors qu'il est impuissant, qu'il ne peut plus bouger sur la croix, que bientôt il ne peut plus parler ? Eh bien, c'est par son attente, c'est par son infini abandon. Parce que quoi ? Eh bien, c'est ce qui provoque le Père à agir. De toi, Seigneur, j'attends le relèvement, dit le psaume. Car attendre, c'est espérer, et espérer, c'est forcer Dieu à agir. On obtient de Dieu autant qu'on en espère, dit Jean de la Croix. Oui, le Père est le Père des miséricordes. Et qu'est-ce que la miséricorde, nous rappelait Jean-Paul II ? C'est la limite historique imposée au mal. Tu n'iras pas plus loin, a dit Dieu à la mer, force de mort dans l'imaginaire hébraïque. Il le dit aussi au flot du péché qui qui veulent nous envahir. Voilà, frères et sœurs, mais je crois qu'il faut aller plus loin encore, car parmi cet abattement que provoquent ces lois, basculement de civilisation, disent certains, défaite pour d'autres, eh bien, de ces lois, nous sommes mystérieusement solidaires. Le prophète dans la Bible, c'est celui qui sait dire « vous » pour dénoncer. « Qui vous a appris à fuir la colère qui vient ?» dit Jean-Baptiste aux pharisiens. Mais le prophète, c'est aussi celui qui, solidaire de son peuple, sait dire « nous ». Nous avons péché contre l'Éternel, notre Dieu. Nous et nos pères, dès notre jeunesse jusqu'à ce jour, nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu, dit le très saint Jérémie. Voilà, et peut-être qu'aujourd'hui, ceux qui promeuvent ces lois sont justement sous l'emprise d'une force qui fait désirer la mort selon saint Paul. Vivre selon la chair, c'est mourir, c'est désirer la mort. Frères et sœurs, nous portons donc nous aussi cette infamie d'une certaine façon, comme le Christ. Nous ne sommes pas étrangers, nous ne sommes pas innocents du mal qui ravage le monde. Voilà peut-être aujourd'hui, j'ose le dire, ce visage si désagréable de l'humilité qui s'offre à nous. Je suis doux et humble. Quelle est l'humilité du Christ? Quel est le sommet de cette humilité, sinon de s'être fait pécher, lui, l'innocent, d'avoir été ce spectacle d'infamie élevé entre ciel et terre. C'est ce qui a fait qu'il a pu instaurer ce royaume nouveau dont parle la première lecture. Aujourd'hui, supplions donc pour que nous soit donné cet esprit de discernement, pour que nous sachions agir là où il faut agir, subir là où il nous faut subir, mais librement, mais avec le Christ. Que Notre-Dame de toute consolation nous y aide.